C'est le moment de retrouver l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez ce matin Joseph Henrotin, qui est chargé de recherche au CAPRI, le Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Il est également rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale. Messieurs, c'est à vous.
Bonjour, Joseph Henrotin.
Bonjour.
On va donc évoquer les enjeux de ce sommet de l'OTAN, où la Belgique arrive avec une vision stratégique dans sa besace et plus de 9 milliards d'euros d'investissement, mais à partir de 2019. Mmh. Alors ce sommet, il se tient à Varsovie, en Pologne, dans le contexte que l'on sait de tensions renouvelées à l'Est avec la Russie. Est-ce que c'est un sommet crucial comme beaucoup l'annoncent ?
Alors, le vrai sommet crucial, à mon avis, c'était celui de Wales, il y a deux ans d'ici, où clairement l'OTAN disait, voilà, il y a un problème avec la Russie. Un pays européen, c'est-à-dire l'Ukraine, a été envahi. C'est quand même quelque chose de pas fréquent. Et donc, il y a ce qui avait été appelé à l'époque un Readiness Action Plan qui avait été mis en place. Donc aujourd'hui, c'est l'heure un petit peu du constat. Est-ce que ça marche? Est-ce que les États européens, membres de l'OTAN, redressent leur budget de défense? Parce que ça, c'était quelque chose qui avait été aussi mis en évidence à Wales. On disait, voilà, il doit y avoir dans les 10 ans, donc d'ici 2024, 2% du PIB de chacun des États qui doit être affecté à la défense, et au sein des budgets, au moins 20% affectés à l'achat de nouveaux armements, de nouveux équipements.
Donc c'est un sommet pour faire le point sur les options stratégiques qui ont été décidées face notamment à la Russie il y a 2 ans.
Voilà, exactement. Ouais. Il y a cet aspect-là, il y a d'autres aspects, l'Afghanistan notamment, la question aussi de l'État islamique, est-ce que l'OTAN doit ou non déployer des AWACS en fait pour participer aux
efforts. Donc ce sont des avions radars qui survolent les zones de conflit.
Tout à fait.
Simplement pour observer, faire du renseignement.
Fournir du renseignement. En l'occurrence aussi, regarder ce que font les Russes. C'est d'abord un radar de défense aérienne. Regarder ce que font les Russes, ce que font les Syriens. Donc voilà, il y a plein de dossiers qui ne sont pas nécessairement très, très visibles au jour le jour. La sécurité des migrants en Méditerranée, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mailler la Méditerranée, éviter que les gens se noient? Il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont revenir à l'avant-plan. Mais le gros dossier, c'est que fait-on par rapport à la Russie, que fait-on par rapport à l'Ukraine, que fait-on par rapport aux États baltes qui pourraient peut-être un jour être envahis.
Alors, que fait-on? L'annonce, c'est notamment 4 bataillons de l'OTAN qui vont être déployés,
c'est ça.
On peut pas dire sur le front de l'Est parce qu'il n'y a pas de front, mais enfin voilà, à la frontière avec la Russie. C'est une mesure quoi? C'est du symbolique ça? C'est montrer que l'OTAN peut mobiliser?
Alors, c'est essentiellement du symbolique, parce que 4 bataillons, ça ne représente pas grand-chose, ça représente même pas une brigade. Voilà, il y a un exercice, un wargame qui avait été tenu.
Alors,
il y a quelques
temps. Nous dire ce que ça veut dire, une brigade, un bataillon.
Un bataillon,
parce qu'on n'est pas dedans.
Ça dépend, ça fait entre 400 et 800 hommes.
D'accord.
Une brigade, il faut compter 2-3 000 hommes, quelque chose comme ça, ça varie suivant les pays. Il y a un exercice qui avait été tenu il y a pas très très longtemps en fait, avec pour question principale, combien de bataillons faudrait-il aux Russes pour envahir les pays baltes, et est-ce que les bataillons baltes existants aujourd'hui seraient ou non capables de repousser l'invasion. Et donc le résultat, c'est que les baltes étaient battus en disposant de 22 bataillons, sachant que les Russes attaquaient avec 17 bataillons. Donc on voit bien 4 bataillons, c'est pas nécessairement ça qui fait la différence. Le truc néanmoins, c'est que il y a une symbolique qui est là derrière. La perception russe est que l'OTAN n'était pas censé déployer des forces à l'Est. Bon, ça n'a jamais été acté dans aucun traité ou ce genre de choses. Là, il y a une espèce de stop qui est marqué par l'OTAN en disant, bon voilà, vous avez envahi un pays, bon c'était pas un pays membre de l'OTAN mais c'était un pays européen malgré tout, nous ça nous pose problème, ça pose des inquiétudes à un certain nombre d'États, dont les Baltes, qui sont juste reliés à l'OTAN par ce qu'on appelle le corridor de Suwalki. Le cas échéant, ces forces doivent pouvoir servir de preuve, si vous voulez, que ces pays ont bien été attaqués.
Alors du côté de la Russie, justement, je lisais certains médias russes ce matin, dont leur média Sputnik, qui est lié
à l'agence
de communication d'État, faut le dire. Et alors, eux parlent de stratégie de la tension organisée par l'OTAN. Est-ce qu'il y a une stratégie de la tension, le fait de, comme ça, déployer des bataillons sur la frontière russe? Est-ce que ça peut être compris comme ça?
Alors, du point de vue russe, effectivement, c'est compris comme ça, parce qu'il y a un blackout médiatique. Voilà, on sait très bien comment finissent les journalistes qui s'opposent un peu à Poutine. Bon, maintenant, en pratique, l'OTAN, concrètement, elle est à la remorque de la Russie. Voilà, c'est pas l'OTAN qui a envahi la Crimée ou qui est en train d'envahir l'est de l'Ukraine. Il y a toujours des combats qui se déroulent. Il faut suivre ce que dit l'OSCE.
Ouais.
qui est reconnu comme indépendant par les deux parties en présence. Voilà, il y a toujours des choses qui se font là-dedans. Maintenant, encore une fois, 4 bataillons, c'est quand même très très symbolique. Voilà, ce qui serait à même de changer la donne, c'est plusieurs brigades. Et là, pour le coup, on n'y est absolument pas.
Alors, pour ce sommet, la Belgique a présenté une vision stratégique. C'est une vision d'investissement de 9 milliards d'euros, essentiellement en matériel, pour rassurer justement les alliés de l'OTAN. Mmh. Est-ce que la Belgique, elle va être crédible à ce sommet ?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect objectif des choses. On s'aperçoit que les gains capacitaires induits par le plan tel qu'il a été présenté sont des gains capacitaires marginaux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais que de remplacer les capacités actuelles. Il ne s'agit pas nécessairement de gagner en capacité, sauf sur les domaines PSIOPS, d'opérations psychologiques d'influence, cyber et renseignement. Mais ça, c'est des choses qui auraient déjà dû être faites déjà depuis bien longtemps.
Oui.
On va au moins retrouver
notre retard, combler notre retard au minimum, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'on va revenir au niveau de 2009, qui n'était pas un niveau très spécifiquement très avancé par rapport aux autres États de l'OTAN. En fait, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, en particulier après les réductions qui ont été décidées par le nouveau gouvernement dès son entrée en fonction, voilà, aujourd'hui la Belgique, elle dépense 0,85% de son PIB sur sa défense. Voilà. Ouais. En 2009, les chiffres de l'OTAN, en l'occurrence, viennent de sortir. Ils ont été fournis par la Belgique, donc ils ne peuvent pas être contestés. C'était 1,16% du PIB. Voilà. Aujourd'hui, la défense belge, pensions comprises, les chiffres sont en pensions comprises, c'est 3,450 milliards. Si la Belgique respectait les engagements qu'elle a pris au sommet de l'OTAN de Wales, j'ai refait le calcul hier, c'était 8,540 milliards. Voilà. Ouais. Donc, on mesure bien à quel point les 9,2 milliards ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à ce que la Belgique aurait dû, si elle respectait ses engagements, financer.
Je reviens à la question de la crédibilité. Si on lit certaines de vos analyses, vous êtes assez dur avec la manière dont les budgets n'ont pas, selon vous, été affectés pendant des années. Mm-hmm. Est-ce qu'on est encore crédible ? Peut-être même dans une composante de l'armée, est-ce qu'on est encore sur le terrain de l'OTAN et par rapport à nos alliés, une force sur laquelle on peut compter, la Belgique ?
Alors, il y a deux... Pour résumer les choses, en fait, on a coupé le bras droit en coupant pratiquement dans les effectifs de l'armée de terre. Donc on a perdu le bras droit. Heureusement, il reste un bras gauche, c'est la force aérienne. Là, on a décidé effectivement d'un renouvellement capacitaire, 34 appareils de combat, un ravitailleur en vol, des drones, etc. Bon, 34, c'est moins que 54. Ça pose.
Donc on a 54 F-16, on va avoir 34 nouvelles avions de combat.
Il y aurait 34 nouveaux appareils de combat. Mmh. Donc il reste ça. Il reste les forces légères, paracommando, forces spéciales. Ben, la marine, c'est la plus petite marine de tous les états côtiers de plus de 2 millions d'habitants de l'Union européenne.
État comparable.
Voilà, donc les marins sont excellents, ils sont très bons, mais ils ont un tout petit outil malheureusement, sachant que 10% de l'économie belge dépend du facteur maritime. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Donc voilà, il reste la force aérienne. Il faudra reconstruire évidemment la force terrestre. On le voit bien aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on appelle les militaires. Bon, néanmoins, avec seulement 9 milliards, fallait faire des choix. Ce qui était le plus rentable, rentable politiquement par rapport à l'OTAN. Si on veut profiter du parapluie payé par d'autres, il faut aussi apporter sa contribution. Ce qui était le plus rentable, c'était d'investir sur la force aérienne.
Ouais, et quand on voit la politique ou la géopolitique ou le poids des différents pays au sein de l'OTAN, est-ce que ça veut dire que ces 34 appareils, on va devoir les acheter aux Américains comme on a acheté les F-16 il y a maintenant presque 30 ans?
Alors, pas nécessairement. Bon, il y a un tropisme dans certaines parties de la force aérienne sur le F-35, parce qu'effectivement,
c'est un appareil américain annoncé du F-16.
C'est le successeur annoncé du F-16. Après, il y a encore énormément de débats, il y a des choses pas claires avec le F-35. Mmh. Il suffit de se renseigner un peu, vous verrez que c'est pas nécessairement un appareil très, très, très apprécié, ni des pilotes, ni des analystes. Maintenant, il y a d'autres options qui sont là. Maintenant, il faut espérer qu'avec ce plan, le dossier va se débloquer un petit peu et que les industriels vont pouvoir faire leurs propositions, y compris d'ailleurs en matière de retour économique pour la
Belgique. Est-ce que vous avez l'impression que si ce plan, c'est une vision stratégique dont le gouvernement a pris acte et appliqué, on va se retrouver d'ici 2030 avec une armée digne de ce nom ? Est-ce qu'on pourra le dire ?
Alors, il y a déjà un facteur d'ordre politique, c'est-à-dire que l'essentiel de ce plan, il va être appliqué après 2019.
Ouais, donc, après les élections.
Après les élections, donc ça dépend, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le gouvernement ici a transformé le facteur défense, les questions de défense, en un futur enjeu électoral qui pourra être instrumentalisé par les uns, par les autres au cours de la prochaine campagne électorale, mais en sachant qu'en Belgique, historiquement...
On ne parle pas beaucoup de défense
dans les
élections.
On parle pas beaucoup de défense, il y a un certain tropisme pacifiste, etc. Donc, il y a un jeu dangereux qui est là derrière, qui consiste à dire, finalement, le plan décidé par le gouvernement de droite, etc., il va passer à la trappe. Et donc là, ça aurait été définitivement le dernier clou dans le cercueil, si je puis permettre l'expression. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être prudent quant à l'exécution de ce plan, il y a beaucoup d'inconnus.
Merci Joseph
Hortin. Il est 7h54, dans un instant, vous retrouvez votre café serré qui vous sera servi aujourd'hui par Bruno Coppens.